Donc, on a eu le privilège pour plusieurs semaines de recevoir des conférenciers invités. Et puis, on a été vraiment bénis de nos frères qui ont pu se joindre à nous. Mais on voit maintenant, c'est la rentrée et puis les gens, ben, les vacances s'achèvent. Et puis, pour les prochaines semaines, vous allez être pris avec moi. Et puis, c'est sûr, au mois d'octobre, mais on va commencer à partager la tâche pour apporter les enseignements. Puis Paul va être de retour du camp. On pourrait penser à ceux qui ont passé la fin de semaine au camp. Cette semaine, c'est l'église de Thornlow, ce qui explique la raison pourquoi Paul et Penny ne sont pas avec nous ce matin. C'est que c'est eux le staff. Et puis, si jamais ils ont des ennuis au camp, mais Paul y est proche pour justement venir à leur aide. Mais on peut prier pour nos frères et sœurs de l'église de Thornlow. C'est une église qui est en croissance, qui connaît vraiment des temps encourageants, comme nous ici à Notre-Dame-du-Nord, on connaît aussi. Et puis, on voit que le Seigneur travaille. On dirait qu'il y a comme un réveil. Puis, peut-être pas à l'envergure de certains réveils qu'on a vus dans le passé, mais quand même, c'est encourageant de voir que le Seigneur continue à faire un travail. On croit que le Seigneur tardera pas pour longtemps. Quand on voit le monde dans lequel on vit, avec toutes les avant-précurseurs, les événements qui devraient arriver avant le retour du Seigneur, bien, on pourrait dire, on les voit aujourd'hui. On pourrait dire que c'est le temps de l'enfantement du retour du Seigneur. On ne peut pas le dire de façon catégorique, c'est sûr. On n'est pas appelé d'essayer de trouver la date ou de fixer une date ou même une époque. Mais c'est toujours notre espoir que le Seigneur revient bientôt. Donc, pour les prochaines semaines, on va parcourir ensemble une petite épître de seulement 4 chapitres. Et puis, ça va être une approche un peu plus textuelle au lieu de thématique, comme on a fait dans les derniers mois. C'était plutôt thématique. On a fait une série sur quelle approche avons-nous, et puis on avait plusieurs choses qu'on a considérées suite à cette question-là. Et puis, notre épître aux Philippiens, c'est l'épître que nous allons regarder ensemble, s'intitule « Vivre pour Christ ». Donc, on pourrait dire que l'épître en soi nous apporte un thème. C'est un thème de la joie, peu importe les circonstances dans lesquelles qu'on vit. Et puis, on va avoir le temps, Dieu voulant, dans les prochaines semaines, de voir différents aspects qui nous sont présentés par rapport à la joie de vivre en Christ. Et qu'est-ce que c'est de vivre en Christ? Il y a un verset qui est vraiment le verset clé, on pourrait dire, de cette épître, et c'est Paul qui cite cette vérité parce qu'il en faisait l'expérience personnelle. Paul dit, en effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. C'est quand même surprenant quand on va constater justement les circonstances dans lesquelles Paul se trouve en écrivant ces paroles. Il était en prison. Si Paul dit, pour lui, vivre, c'est Christ qui est sa vie, moi, plutôt, je serais porté à dire, si vous êtes peut-être comme moi, vous allez être peut-être porté à dire comme moi, Christ occupe une place d'importance dans ma vie. Parce que finalement, il y a plusieurs choses dans ma vie qui concourt pour une place d'importance dans ma vie. Et puis voilà quelques exemples. C'est regarder les matchs de hockey, faire des petits tours en spider, puis tu sais, les finances, tout ça, c'est toutes des choses qui nous préoccupent. Et puis c'est pas ça, méchant en soi, là. Je suis pas ici pour dire se promener en spider, là, c'est pas correct. On peut vivre en Christ puis faire des tours en spider. Mais l'idée, c'est qu'il y a des choses qui nous préoccupent, puis des fois, ils vont concourir contre justement qu'est-ce que c'est de vivre pour Christ ou en Christ, parce que tout à coup, ces choses-là peuvent devenir peut-être trop importantes. Donc, c'est de trouver un équilibre dans notre vie. Et puis, c'est de peut-être que notre prière soit que, Seigneur, donne-moi le cœur de Paul. Que moi, je puisse dire aussi, Christ est ma vie. Pas seulement que Christ a une place d'importance dans ma vie. Il est le plus important. Et puis, des fois, c'est une question de replacer nos priorités, puis de ne pas être aveugle, justement. Des fois, on a comme des points aveuglés, là. En anglais, on dit « blind spots », des choses qu'on ne voit pas en nous. Et parfois, c'est bon de tout simplement dire « Seigneur, par ton esprit, jette une lumière dans mon cœur afin que je puisse voir justement les coins sombres que je ne constate pas souvent de moi-même. » Au fil de cette série, nous allons donc nous poser une question qui est très personnelle, puis ce n'est pas une question que je peux répondre pour vous, je peux seulement le répondre pour moi, et je vous invite aussi dans cette série de méditer, réfléchir et de lire cette épître en posant cette question. Qu'est-ce que ça signifie pour moi de vivre pour Christ? On va découvrir ensemble que dans l'épître, Paul va nous présenter justement que Christ doit être le centre de toutes nos circonstances, les bonnes et les mauvaises, dans nos relations, dans nos ambitions, dans nos inquiétudes et même dans notre contentement. Christ est au centre. Mais avant de commencer, vu que ça va être une prédication textuelle de l'épître, c'est bon quand même de contextualiser un peu l'ensemble de l'épître. Donc, on va vous apporter juste quelques mots sur l'épître aux Philippiens. Vous allez trouver peut-être la première pensée, peut-être comme une petite comédie, mais il y en a que, pour eux, Philippiens, c'est la même chose que les Philippines. T'sais, on est en train de lire l'épître aux Philippinos. Non, c'est pas ça du tout. Mais c'est parce que les noms sont tellement semblables que quand on voit qu'on parle à l'église de Philippe, on a l'idée, bien, c'est ceux de la Philippine. Mais les Philippiens, là, c'était dans une ville de Philippe qui est en Macédoine, qui est la Turquie actuelle d'aujourd'hui. Donc, c'est une épître qui a été écrite pour le Moyen-Orient, pour une église qui se trouvait à Philippe. L'histoire de l'église de Philippe, on la connaît quand même assez bien parce que Actes chapitre 16 nous en donne des détails. C'est lors du deuxième voyage missionnaire de Paul, on lit justement dans Actes 16 un peu les événements qui se sont passés. Et puis dans ces passages-là, on rencontre cette colonie romaine qui était quand même une colonie assez importante, régionale, on pourrait dire, qui était peut-être la plus importante en Macédoine. Et on voit dans le chapitre 16 d'Actes, au verset 14 et 15, on rencontre une femme qui s'appelle Lydie. Et puis on voit que Dieu ouvre le cœur de Lydie qui entend l'évangile que Paul et Silas ont partagé avec eux. Et c'est aussi le même chapitre 16 où ce qu'on voit, Paul justement et Silas qui sont battus et jetés en prison. Et puis on se rappelle qu'au milieu de la nuit, même dans leurs circonstances, ils ont chanté jusqu'au point que le geôlier, lui, il ne savait pas comment s'y prendre avec ces deux gars-là. Puis il a été converti. Et après sa conversion, et ceux de Lydie aussi, bien, c'était le noyau d'une petite assemblée qui s'est formée, qui a commencé une œuvre en Macédoine, dans la ville de Philippe. Et puis, c'est 10 ans plus tard qu'on voit la lettre qui a été écrite aux Philippiens par Paul. C'est déjà 10 ans de passé, donc il y a eu quand même une croissance, cette église. Elle s'est épanouie, on avait installé des anciens, on avait des diacres, on avait une église qui grandissait dans cette région-là. Et puis, Paul est en train de leur écrire une lettre. Et à ce moment-là, Paul était prisonnier, probablement à Rome. Et c'est quand même quelque chose de remarquable parce que Paul écrit sur la joie, qui est vraiment le thème central de l'épître. Il parle de la joie, de qu'est-ce que c'est de vivre en Christ, même dans ses chaînes. Donc, les circonstances de Paul ne sont pas faciles. Son avenir est incertain, c'est sûr. Et pourtant, Christ demeure son sujet, sa joie, son espérance et sa raison de vivre. On ne voit pas un Paul dépressif dans l'écriture de l'Épître aux Philippiens. On ne voit pas un Paul qui demande « Sortez-moi d'ici, priez que je puisse sortir bientôt. » On voit un Paul en paix qui constate que même en prison, c'est pour la gloire de Dieu qui est placé là. Puis on va voir un peu dans les détails les versets qui vont peut-être nous surprendre un peu d'une attitude qui ne serait peut-être pas la nôtre. C'est sûr, ça ne serait pas le mien. J'ai beaucoup à faire grandir dans ma vie. Qu'est-ce que c'est de vivre pour Christ? Parce que je le sais, c'est juste à me faire penser qu'est-ce que ça serait d'être mis en prison. Je pensais à ça justement dans le temps qu'on chantait, là, juste la liberté qu'on a. On s'est levé ce matin sans aucune pensée, aucune crainte de venir prendre un temps ensemble à l'Église. On vient librement. On n'a pas besoin de se cacher pour venir. Puis on a des frères et sœurs qui, aujourd'hui même, se rendent à une église souterraine, dans une maison quelque part, cachée, dans un lieu qui n'est pas connu par le grand public, pour avoir un culte ensemble. Et puis, ils savent. Peut-être qu'il y a un voisin, peut-être même un membre de leur famille qui vont les déclarer, qui va rendre que leur vie soit difficile. On reçoit souvent des rapports de la Voix des martyrs. Puis combien de persécutions que connaissent l'Église partout dans le monde. Et nous, ici, on ne le connaît pas. Du moins, on ne le connaît pas encore. On le connaîtra peut-être un jour. Mais je sais que ce n'est pas quelque chose que je cherche. Même souvent, comme Église, nous allons prendre un temps pour prier que le Seigneur, justement, sauvegarde nos droits et libertés pour se réunir comme Église, pour avoir un culte ensemble, sans avoir peur des autorités, sans avoir aucune crainte. Et dans toutes les circonstances que Paul est en train de vivre, on n'entend pas se plaindre. On n'entend pas de la crainte. On entend un homme qui est joyeux, qui peut déclarer « Pour moi, vivre, c'est Christ. » Donc, c'est pourquoi cet épître est vraiment actuel pour nous aujourd'hui. C'est un épître qui a été écrit pour une église spécifique, mais on sait que même dans le tout début, les lettres que Paul écrivait étaient souvent circulées dans les différentes églises parce qu'il y avait souvent des enseignements qui étaient pour toutes les églises. Et puis, des fois, il adressait des circonstances très spécifiques pour un endroit très spécifique. Mais en gros, les lettres étaient circulées pour édifier toute l'Église. Et cette lettre aura été justement circulée dans ce premier siècle. Et il circule encore aujourd'hui. On a une copie entre nos mains de cette lettre qui a été écrite. Et elle a été écrite aussi pour nous. Cette épître ne nous enseigne pas pour vivre pour Christ. Va nous éviter des difficultés. Des fois, on espérerait que c'est ça qu'on lirait dans les lignes des épîtres de nos Bibles. Qu'il y aurait une belle promesse que, tu sais, si on reste fidèle, mais tout va bien aller. On l'a chanté justement ce matin. Même dans les temps difficiles, tu m'aimes. Puis, qu'est-ce que l'épître va nous apporter à considérer? Que la vie ne sera pas toujours facile. Et dans les difficultés, Dieu nous accompagne, Dieu nous aime. Et dans cette promesse et dans sa fidélité, on peut dire, mais pour moi, vivre, c'est Christ. Donc, on commence. On l'a dit dans la dernière série, même on a terminé avec cette idée-là, que faire des plans, n'est pas nécessairement un péché, même des fois, c'est utiliser la sagesse et l'intelligence que Dieu nous donne pour justement faire comme Néhémie et planifier, faire un plan pour faire un ministère ou un œuvre que Dieu va nous confier. Et on aime ça faire des plans. Mais souvent, quand on prévoit pour notre travail, notre famille, notre ministère, notre retraite, nos projets, bien souvent on prie que les choses vont comme ceci. On va dire, Seigneur, voici ce que j'aimerais que tu accomplisses. Puisse accomplir ensemble pour toi. Puis on lui dit, comment on imagine ça, là, tu sais? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait pour nous? Mais des fois, il y a des choses qui arrivent. Des maladies, une perte, une déception, une porte qu'on pensait ouverte et s'est fermée, une opposition, un problème familial, des difficultés financières, parfois une période d'attente qu'on ne comprend pas. Et soudainement, notre question devient, « Seigneur, pourquoi tu permets cela? » Parce que souvent, dans nos projets, dans nos pensées, dans notre planification, bien, on voit toujours un côté positif, on voit quelque chose d'agréable. Le Seigneur n'a jamais dit à ses disciples, quand il les avait envoyés, que ça serait facile, mais plutôt ils avaient dit justement à quel point ça serait difficile. Ils avaient déjà annoncé qu'ils perdraient leur vie en raison de l'Évangile. Et puis des 12, il y a juste Jean qui n'a pas connu d'être martyr. Mais Jean, il était quand même prisonnier dans ses derniers jours. Il n'avait pas la liberté non plus. Le Seigneur les avait dit d'avance qu'ils mourraient pour l'Évangile. On n'aurait pas voulu planifier de cette façon-là. Le martyr, ce n'est pas quelque chose qu'on met dans notre agenda, là, je suis prêt à mourir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce n'est pas tellement haut sur ma liste. Et on se demande des fois, quand on entend parler des histoires d'horreur de ceux qui peuvent quand même témoigner dans des lieux très insécures, comment ils peuvent le faire. Mais je pense vraiment que c'est une grâce spéciale qui est donnée par le Saint-Esprit dans le moment où on l'a besoin pour passer à travers. Il n'y a personne qui demande le martyr. On pense à nos 5 missionnaires là, au Oka, dans l'Amérique du Sud, là, qui sont morts, martyrisés pour l'Évangile. Quand ils ont fait leur plan, là, c'était pour évangéliser, peut-être traduire la parole dans leur langue, etc., de voir une église s'établir, etc. Là, c'est ça leur plan. Et puis pour ces 5 hommes qui sont morts, bien, c'est leur épouse qui ont continué le travail. C'est eux qui ont rentré après la mort de leur mari, il y en a 2. Et puis sont retournés et ils ont travaillé dans la jungle. Et c'est ces 2 femmes-là qui ont vu accomplir le plan de qu'est-ce que leur mari avait pour ce peuple, pour atteindre ce peuple avec l'Évangile. On ne planifie pas avec l'idée que ça pourrait être difficile, que ça pourrait et décourageant que ça pourrait être moins que facile. Puis des fois, on dirait qu'on se disqualifie de même la possibilité que le Seigneur nous appellerait à des circonstances difficiles parce qu'on n'en veut pas de la difficulté. Puis c'est des fois des choses qui nous empêchent justement à contempler des fois un ministère ou une vocation pour le Seigneur parce qu'on a peur que la possibilité serait que le Seigneur nous demanderait quelque chose qui serait trop difficile pour nous. Donc, cette épître ici est là vraiment pour nous encourager à changer un peu notre façon de voir les choses puis dire, oui, on va planifier pour le meilleur, mais il faut s'attendre, Seigneur, que si je dois passer par des eaux profondes, mais je sais que tu vas m'accompagner puis je suis prêt à y aller quand même. Je suis prêt. On sait que Paul avait reçu de Dieu un ministère qui était très clair. Actes chapitre 22, 21, le Seigneur dit à Paul, « Va, car je t'enverrai au loin vers les nations. » Et puis, il a fait 3 voyages missionnaires, mais je ne pense pas que Paul pensait qu'il y avait une date où ce que tout cela arrêterait à un moment donné puis se retrouverait en prison. Il est passé, le Seigneur m'a dit, « Je vais aller vers... » Justement, j'ai une mission qui dit que je vais aller au loin vers les nations. Mais peut-être il pensait que c'était pour toute sa vie, là, jusqu'à sa mort, qu'il serait évangéliste, qu'il serait missionnaire. Il se trouve à Rome, en prison. Il voulait annoncer quand même le Christ, mais il se trouve en prison. Pauvre Paul. Humainement, là, on regarde une photo comme ça, puis on dit, mais ça, c'est un énorme obstacle. On sait qu'un missionnaire, la définition de missionnaire, c'est tu dois être capable de voyager. Mais Paul ne peut pas voyager, il est en chaîne. Un prédicateur doit prêcher. Bien, dans sa cellule seule, il y avait peut-être les souris puis les rats qui se promenaient, que c'est les seuls qui étaient pour l'entendre parler, au moins dans ces années-là. Un évangéliste doit rencontrer des gens, finalement, si on veut faire le travail d'un évangéliste puis d'apporter la bonne nouvelle à d'autres. Mais il faut voir du monde. Et tu ne vois pas grand monde dans ta cellule. Et pourtant, le premier chapitre de l'Épître aux Philippiens ne ressemble pas aux paroles d'un homme qui est vaincu. Mais il y a une chose que Paul avait compris, puis c'est vraiment qu'est-ce qu'on doit vraiment, pour nous, se rappeler, c'est ceci. Une fois, on va lire les versets, mais on doit toujours se rappeler. Les circonstances peuvent limiter ce que je peux faire, mais elles ne peuvent pas m'empêcher de vivre pour Christ. C'est ça la leçon pour nous. Oui, il y a des choses dans nos vies qui vont nous empêcher ou nous limiter des choses qu'on peut faire, mais elles ne peuvent pas m'empêcher de vivre pour Christ. Mercredi, on a rencontré la cousine à Muriel qui demeure à Sudbury. Alors, je pense qu'elle avait 54. Quel âge elle avait quand elle a eu son ACV? 53, 54. Juste sur le bord de la retraite de l'enseignement, là, elle avait une année à faire. Je pense qu'elle anticipait sa retraite l'année d'après. Et puis là, elle est dans une chaise roulante. Elle est limitée. C'est ça que des fois, dans la vie, il y a des choses qui peuvent nous limiter. Mais ça ne devra jamais nous empêcher de vivre pour Christ, peu importe nos circonstances. On va lire les premiers 11 versets de l'Épître, parce qu'on va passer à travers les versets un peu, un après l'autre un peu. Philippiens, chapitre 1, versets 1 à 11. « De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. » Donc, il salue tout le monde. On sait que l'Église est bien établie parce qu'il y a des anciens, puis des responsables, puis des diacres. Bon. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Point d'exclamation, hein? J'ai peut-être pas lu ça avec un point d'exclamation dans mon intonation, là, mais ici, il le dit avec cœur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Donc, il est en train de dire, hey, je parle à Dieu de vous autres. Je prie pour vous, puis je remercie le Seigneur pour vous. Il dit, dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie. Et il est tellement content. à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Hein, depuis Lydie, puis le geôlier, puis sa famille, qui ont connu le Christ dans ses premiers jours, à son arrivée en Philippe. Jusqu'à aujourd'hui, il dit, parce que vous prenez part à l'Évangile d'annoncer cette bonne nouvelle, jusqu'à maintenant, vous continuez. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre le poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. En autre mot, je veux que vous sachiez, il faut saisir l'important. Il y a tellement d'aspects de la vie de l'Église qu'on pourrait s'occuper avec que finalement on pourrait perdre l'essentiel. Ainsi, vous serez purs, irréprochables pour le jour de Christ, remplis de fruits de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, il commence ça pas mal de façon étonnante. Pour quelqu'un qui est en prison, il aurait pu facilement commencer avec « prier que je sorte rapidement de cette prison ». Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie. » Donc, c'est le premier paradoxe de l'épître de Philippiens. On dirait que ce n'est pas normal de réagir de cette façon-là. On est toujours prêt à dire « Merci Seigneur pour toutes les bonnes choses que le Seigneur permet dans nos vies, qu'il nous donne. » Puis on compte nos bienfaits, puis on est content de ce que le Seigneur fait pour nous. Mais est-ce qu'on dit « Merci Seigneur pour les épreuves, pour les difficultés, pour le manque de santé, pour les défis de ce monde? » C'est ça le premier paradoxe de l'Épître. C'est que Paul peut dire qu'il est un homme joyeux, même dans ses circonstances. Voici le secret. Parce que notre joie ne dépend pas principalement de ce qui nous arrive. C'est ça que Paul est en train de nous dire. C'est pas qu'est-ce qui nous arrive sur lequel notre joie dépend. Elle dépend de celui à qui nous appartenons. Puis je vais vous dire, je n'ai pas tout à fait saisi cette vérité-là dans ma vie. Parfois oui, et parfois non. Par moments, j'ai la logique d'un humain tout à fait bien ordinaire, qui cherche le facile dans la vie, le confort. J'évite justement tout ce qui pourrait représenter pour moi une épreuve. Et parfois, ça m'empêche même de parler en bien de mon Seigneur à d'autres. Parce que j'ai peur de la façon qu'ils vont peut-être réagir. Parce qu'on a déjà tous été repoussés en parlant du Seigneur à quelqu'un. Tu commences à parler du Seigneur, puis tu regardes, les yeux roulent dans la tête, puis ils font comme fou. Écoute, c'est bon pour toi, ta religion, là, tu peux la garder, là. Mais je ne suis pas bien, bien intéressé de parler de ça. Là. Change de sujet, s'il vous plaît. Puis des fois, c'est dans le sein de notre propre famille où ça se voit plus parce que ils nous connaissent. Des fois, ils nous voient arriver. Ah, tu sais. C'est comme des fois, on a un règlement dans notre, chez nous, là, quand je visite mes parents, quand toute la famille est là, là. C'est comme il y a une règle qu'on a comme établie. On ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de ci, on ne parle pas de ça. On ne parle pas des problèmes. On fait semblant que tout va bien pour tout le monde en tout temps. C'est pas facile d'évangéliser dans un contexte où ce que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur dans ta famille te regardent comme d'où tu es sorti. Mais c'est toujours quand même bien, parce que j'ai un frère qui connaît aussi le Seigneur, qui est très fidèle, lui et son épouse, puis on les a reçus cet été. Puis là, on était bien là. Là, on pouvait parler comme on voulait. Puis on a remarqué, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu parler de cette façon-là si on aurait été avec toute la famille ensemble. Mais ça, c'est la logique de l'homme. C'est des accommodations que je fais, pas parce que je veux vraiment les faire, parce que je sais que ça n'honore pas le Seigneur, de reculer devant l'occasion de partager le Seigneur avec d'autres, sans nécessairement les évangéliser. Là. On ne veut pas, tu sais, comme arriver à chaque fois qu'on voit notre famille, puis juste les taper, ça, tu sais, les versets, puis la Bible, puis le Seigneur, puis écoute, si ça n'a pas marché dans le passé, ça ne marchera pas plus aujourd'hui, à moins que le Seigneur bénisse vraiment ça, mais souvent, c'est juste dans notre comportement que ça va se voir. Mais des fois, je le sais, des fois, on dirait que ma joie dépend de ce qui arrive plutôt que celui où j'appartiens. On voit dans ces versets-là que Paul regardait au-delà de ses circonstances. Et qui pourrait blâmer Paul s'il aurait voulu regarder ses chaînes puis se plaindre? Puis de se plaindre de ses ennemis, il y avait plein d'ennemis. Il y en a plusieurs qui cherchaient son mal. Il envisageait justement un procès, parce qu'il était citoyen romain. Il voulait paraître devant le gouverneur, devant l'empereur. Il aurait pu regarder son avenir qui était incertain. C'est là qu'il aurait pu placer ses yeux, c'est là peut-être où ce que mes yeux auraient été placés. Mais on voit Paul dans cette lettre qui regarde plutôt à ce que Dieu est en train d'accomplir. Puis là, ça c'est une discipline spirituelle qu'on a tous à exercer. Et quand on parle de discipline, ça veut dire que c'est quelque chose de compris et à pratiquer. Et en mettre en pratique, c'est un exercice qu'on doit faire. La discipline, c'est quoi? C'est d'agir selon une conviction. Même si pour nous, ça représente peut-être un certain inconfort. Paul lève les yeux au lieu de regarder ses chaînes. Dieu continue son œuvre, même lorsqu'on ne le voyait pas. C'est là où ce que Paul dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Puis on remarque qu'il y a comme trois étapes dans ce verset. La première étape, c'est que Dieu a commencé une œuvre. Paul le dit ici, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. » Donc, la source, le début, la genèse de l'œuvre de Dieu est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Et quelle est cette œuvre? C'est l'œuvre où ce que nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Oh, si ça ne vient pas de moi, mais ça vient de où? Par le moyen de la foi, mais ça vient de Dieu. Dieu commence une œuvre en nous. Mais ça n'arrête pas là. C'est le début. Le verset continue pour nous dire que cette bonne œuvre, Dieu la poursuivra. C'est Dieu qui le fait continuer. C'est pas comme Dieu dit, bon, mais j'ai fait le... Tu sais, j'ai comme planté cette œuvre, j'ai planté la semence, mais c'est à toi maintenant de faire le travail. Je te le donne. Le Seigneur dit, non, non, je ne te donne pas. Je la garde. Et je te confie une partie du travail qui est à faire. Je t'en donne. Tu vas participer avec moi, mais on va le faire ensemble. Il poursuivra. Il travaille en nous par son esprit. Philippiens 2,13 nous dirait « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir de le faire selon son bon plaisir. » Son bon plaisir. Et c'est Dieu qui nous vient aider à le faire. C'est lui qui produit en nous le vouloir de le faire. Donc, Dieu est la genèse de l'œuvre. Dieu poursuit l'œuvre en nous et nous donne le goût de le faire. Et, ça continue, il va l'amener jusqu'à son terme. Il va le terminer aussi, cette œuvre. Donc, notre histoire n'est pas terminée, peu importe l'âge qu'on a. On doit être prudent lorsqu'on juge notre vie uniquement à partir des chapitres difficiles que nous sommes peut-être actuellement en train de vivre. Notre histoire n'est pas terminée. Donc, les échecs de mon passé, les moments où j'ai reculé devant les occasions que le Seigneur m'a données de parler en bien de lui et de parler de ma foi en Christ et qu'est-ce que le Seigneur fait dans ma vie avec d'autres, mais ça ne veut pas dire que je vais toujours reculer. Parce que Dieu est fidèle. C'est un peu qu'est-ce qu'on a vécu sur le chantier chez nous. Ça, c'est la cave quand ils sont venus mettre l'électricité. Je te dis, il y avait des fils partout. Ça, dans notre temps, on prenait des petits crochets là, pour les mettre bien tout beau. À ce temps, on fait juste filer ça partout. Puis il restait, moi, avec mon OCD, là. Moi, il fallait que ça aurait été fallu être bien beau, bien carré, bien net. Je sais pas. Il y a juste le panneau qui est bien propre et bien beau. Là. On dirait que le reste, là, c'est des fils qui vont partout puis ils s'en fichent. Ça va être tout caché derrière le mur. Hein. Anyway, c'est un peu, ça a l'air pas organisé, ça a l'air pas trop encourageant. Puis en avant de la maison, ben c'était pas mieux. Ça, c'est l'autre côté de ce même mur-là. Parce qu'on planifiait quelque chose. Puis qu'est-ce qu'on planifiait? Ben c'est que quelque chose de beau en aboutirait. Mais c'est un peu qu'est-ce que c'est la vie chrétienne des fois, là. C'est un peu désorganisé. Des fois, là, c'est comme on ne voit pas clair et puis on se dirait, mais Seigneur, je ne comprends pas ou je ne te vois pas dans cette situation. Puis je suis confus. Je ne sais pas qu'est-ce que tu t'attends de moi, etc. Là, vivre pour Christ, ce n'est pas toujours clair et facile. Puis on n'aura pas toujours le courage d'avancer dans qu'est-ce que le Seigneur réserve pour nous. Mais des fois, c'est ça, là, c'est le désordre, au moins du point de vue humain. Parce que nous, on aimerait savoir la fin du début à la fin. Le Seigneur nous dit souvent, « Ma grâce te suffit, tu as juste besoin de voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. » Mais éventuellement, le travail est complété. C'est le même mur. Donc, derrière ce mur, il y a des fils partout, puis c'est un vrai désordre, mais une fois fini, c'est très beau. Et puis finalement, ce beau foyer nous dégage une belle chaleur, c'est très agréable, et on en profite. C'est un peu l'image de ma vie. Quand le Seigneur fait un travail en moi, bien, au début, peut-être, je ne vois pas de A à Z, et puis, pour moi, ça pourrait me déranger beaucoup. Parce que j'aime voir un peu plus loin peut-être que qu'est-ce que le Seigneur me donne de voir. C'est sûr que Paul, assis dans sa cellule, là, il se demandait peut-être la même chose. Mais je ne pense pas. Parce que selon qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce que le Saint-Esprit a mis à cœur, bien, si Paul parle de lui-même, c'est que Dieu avait fait évoluer en lui une sagesse, une connaissance de sa personne, une appréciation de la fidélité de Dieu, ce que Paul pouvait maintenant écrire après toutes ces années de ministère, pour moi, vivre, c'est Christ. Donc, regardons pas la situation actuelle dans laquelle on est par rapport à la marche chrétienne qu'on est en train de vivre juste aujourd'hui. Il ne faut pas se fixer l'œil sur juste nos circonstances d'aujourd'hui. Puis, je ne suis pas ici pour vous dire que les circonstances vont changer toujours pour le meilleur non plus. Là. Ça ne sera pas toujours un confort à la fin de l'histoire. Ça ne sera pas toujours la façon qu'on l'aurait planifié. Pour que ça soit tout beau. Dieu, en terminant son œuvre en nous, des fois, la façon que ça se termine, mais c'est pas facile non plus. Le ministère des disciples de Christ, les 12 apôtres, ça n'a pas été facile. Et on est appelé à être disciples. Et je ne suis pas pour non plus vous dire que ça va mal finir non plus, puis ça va être difficile, puis ça sera difficile jusqu'à la fin, etc. Là. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu nous réserve. C'est comme si Dieu nous réserve un bagage de bonnes choses et de mauvaises choses. Puis ça, c'est l'estimation humaine là, de qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Tout ce que Dieu fait est bon pour nous et dans sa volonté. Et pour nous, parfois des leçons, parfois pour nous des expériences, pour avoir une certaine sympathie ou empathie pour d'autres qui vont peut-être vivre les mêmes circonstances que nous, dont on va être capable de leur encourager parce qu'on y a passé par là. Paul continue dans les versets 12 à 18 à nous parler des circonstances que Dieu peut utiliser pour faire avancer l'Évangile. Donc, tu sais, la préoccupation de Paul, c'était sûrement d'évangéliser, c'était la promesse qui avait été donnée, tu vas aller dans les lieux lointains pour annoncer l'Évangile. Il a donné l'occasion pour le faire, et puis là, il se trouve en prison, mais finalement, il constate le travail continue. Même si je suis ici, le travail continue. Paul est encore évangéliste. Verset 12, « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Vois-tu, c'est le verset, c'est un autre verset un peu paradoxal. « Je désire que vous sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé. » Là, il ne met pas le point là, de tout ce qui est arrivé, mais il aurait pu dire, « Bon, ben, il y a eu une arrestation, il y a eu des accusations, il y a eu des voyages difficiles, j'ai fait naufrage, j'ai été emprisonné, etc. » Il aurait pu dresser une longue liste. Ça, c'est les choses qui sont arrivé. Mais là, il dit, ces choses-là, là, ils ont contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. C'est pour Christ que je suis en prison. Il ne voyait pas être en prison comme une contrainte. Et la plupart des frères et sœurs encouragés dans le Seigneur par mes chaînes. Et vous êtes encouragés par mes chaînes. Ouais. Je pense qu'est-ce que Paul est en train de faire allusion ici, c'est que vu que je suis ici en prison, et puis je suis pas le Paul évangéliste comme le leader qu'on y a placé comme sur un podium. Là. On l'a placé comme un homme très important, mais écoute, pourquoi évangéliser quand on a le grand Paul ici pour évangéliser? Je pense que c'est l'allusion qu'il fait ici, que les frères et sœurs sont encouragés dans le Seigneur parce que moi je suis en chaîne. Donc, vous n'avez que le choix de prendre la relève et vous impliquer dans le ministère que vous auriez par défaut me donné parce que c'était moi votre leader. Donc, Paul est en prison et maintenant, les croyants des églises locaux, où ce que Paul avait une influence, mais c'est sûr qu'il a fallu qu'eux, ils commencent à s'occuper pour faire le travail que Paul faisait. Et donc, il y en a d'autres qui sont partis comme missionnaires, il y en a d'autres qui sont partis pour établir les églises. Ce n'est pas comme l'Église et la révolution qui était le christianisme à l'époque, elle a arrêté. Elle n'a pas arrêté parce que Paul a été arrêté puis est mis en prison. Ça a continué, puis c'est ça que Paul est en train de nous dire, que tout ce qui était arrivé à lui, c'était pour le progrès de l'Évangile. Et c'était par l'entremise de ses frères et sœurs qui ont été encouragés dans le Seigneur. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie. Là, il est en train de comme expliquer un peu. Peu importe la motivation, il y en a que, tu sais, Paul, il était trop important. Il y avait des jalousies. Il y avait même des fois, dans des églises, ceux qui prenaient pour Paul, d'autres qui prenaient pour Apollos, etc. On lit ça dans les épîtres. Il y avait comme des favoris. Mais là, il n'y a plus rien de ça, là. On n'a pas le choix. Paul est en prison. Le grand leader est en prison, donc c'est nous sur lesquels tombe la responsabilité pour continuer l'œuvre du Seigneur, et Dieu, par son esprit, forme des missionnaires et de ceux qui apportaient la parole à d'autres, qui proclament justement l'Évangile. Il y en avait même par jalousie qui le faisaient, mais Paul dit ici, d'autres vont agir par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec des pensées pour augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe, il dit. De toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je me réjouirai encore. Paul a constaté que Dieu peut utiliser nos circonstances, même s'ils sont difficiles, pour faire un travail auxiliaire qui ne dépend pas nécessairement directement de nous. Le verset 12, « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé plutôt à contribuer au progrès de l'Évangile. » J'ai déjà un peu fait l'exégèse sur ce verset-là, mais c'est quand même une déclaration qui est extraordinaire. « Ce qui m'est arrivé. » On sait comment affreux les choses qui se sont arrivées, les choses assez pour décourager quiconque aurait ce ministère-là, on aurait pu décrocher facilement. Et comment Paul va-t-il voir cela travailler pour lui. C'est la souveraineté de Dieu. C'est sûr que l'homme pouvait enchaîner Paul. Il a été arrêté, ils l'ont enchaîné, ils l'ont mis dans une prison. Mais l'homme ne pouvait pas enchaîner l'Évangile. Il y en a d'autres qui ont pris la relève. Et c'est là-dedans que Paul voit qu'il n'y a pas de point de se décourager, parce que Dieu fait une œuvre et c'est à Dieu qu'appartient l'œuvre, et il le poursuivra et il le terminera. L'homme ne peut pas arrêter. Qu'est-ce que Dieu commence, Dieu fera. Il l'amènera à son terme. Au verset 13, on lit que personne ailleurs ignore que c'est pour Christ que je suis dans ces liens. Mais pourquoi? Bien, c'est parce que les chaînes pour Paul sont devenues sa chair. Ça faisait partie de lui. Et dans les circonstances qu'il était, bon, mais il y avait quand même un ministère. Les soldats, ils peuvent voir Paul. Les soldats entendent Paul parler. ils vont découvrir pourquoi il est prisonnier. Paul voulait aller vers les gens pour annoncer Christ. Et maintenant, Dieu permet que les gens viennent à Paul pour l'entendre. Pensons à ce soldat là, qui a la charge. Son capitaine lui dit, « Bon, mais aujourd'hui, là, c'est toi qui accompagnes Paul, le prisonnier. » Il pourrait bouder un peu. « Ah oh, non, pas ce radical-là. Tout ce qu'il fait, c'est de me parler de Dieu à tout le temps. Là. Il n'arrête pas de parler de Dieu. Pour le soldat, Paul est un prisonnier, mais finalement, si on regarde la situation autrement, c'est un peu comme le soldat, c'est lui le prisonnier. C'est pourquoi la parole nous promet que dans une famille, on va dire dans un couple, souvent, c'est nos sœurs qui sont plus ouvertes à l'Évangile. Combien de fois on entend des témoignages qui vont dire, bon, ben, mon épouse est venue à Christ, et puis j'ai vu un changement, puis par après, je me suis converti. Ça, c'est l'expérience de plusieurs témoignages ici. Mais Paul nous parle de, justement, dans un couple où ce que le joug n'est pas égal, où ce que il y en a un qui est sauvé, puis l'autre qui n'est pas sauvé. Il dit, ben, l'autre qui n'est pas sauvé, là, il est comme béni. Parce qu'il est prisonnier de la personne qui est sauvée. Ils vont entendre l'Évangile, ils sont bénis avec la parole de Dieu et de voir un témoignage dans la vie d'une personne changée. Et c'est pourquoi souvent, les maris vont suivre pas longtemps après. L'époux va voir, « Ben, Seigneur, s'il peut faire ça pour changer mon épouse, il peut me changer moi aussi. » Qu'est-ce que Paul fait? Bien, c'est sûr, il prie pour justement les soldats qui ont la charge de lui. Il leur parle de Christ. Le geôlier, lui, quand il s'est rendu au travail avec son lunch là, ce soir-là, là, puis il passe à avoir juste une nuit tranquille, puis il y a ces deux cocos-là qui sont en train de chanter des hymnes dans la nuit. Puis là, après, qu'est-ce qu'il a vu? Puis tout ce qu'il avait entendu... Prêt à prendre sa propre vie de crainte qu'il se ferait vraiment, tu sais, taper par son boss. Et quand les deux disent, ben écoute, fais-toi pas aucun mal, là, on est ici. Puis là, il dit quoi? Que dois-je faire pour être sauvé? On pourrait dire, c'est le geôlier qui était le prisonnier de Paul. Il était attentif à ce que Paul avait à lui dire. C'était pas juste un soldat, là. Je pense qu'il y avait des chiffres, là. Il y en a un qui, lui, c'était le lundi, puis le lundi soir, puis le mardi soir. Il y en avait toute une gang de soldats qui ont rencontré Paul, qui ont entendu l'Évangile. Il y avait un ministère. Il s'est pas limité. L'Évangile continue au lieu de parler à des foules de centaines à la fois. Il en parle avec un à la fois. Rome croyait avoir attaché Paul à un soldat, mais finalement, Dieu avait attaché des soldats à Paul pour qu'ils entendent l'Évangile. C'est pourquoi on ne doit jamais non plus penser qu'on n'a aucun ministère. Si on arrive à un certain âge, la santé nous faillit, on n'a pas l'énergie, on n'est plus capable, dans notre vieillesse, faire les choses qu'on faisait avant. Des fois, on pourrait avoir même un deuil du ministère qu'on avait autrefois, puis on n'a plus la capacité de faire. Puis parfois, ça vient avec des remords de conscience. On pourrait dire que oh, j'ai plus la santé que j'avais comme quand je servais au camp, quand j'étais cuisinière. Bon, vous savez à qui je parle. Parce que je l'ai entendu. Hein? C'est ma belle-femme, là, mon épouse. Son cœur de service, elle veut tellement servir, puis c'est là où son cœur est, puis des fois, bon, tu sais, des larmes aux yeux, je ne suis pas capable de faire ce que je faisais avant, là. J'ai plus la capacité, j'ai plus la santé pour le faire. Fais comme Paul, change de ministère. Fais qu'est-ce que le Seigneur t'appelle à faire dans le ministère qui t'a placé, dans les circonstances où ce qui t'a placé. On l'a parlé dans les dernières semaines. On a des saisons dans la vie. Puis ça va changer naturellement avec l'âge. On n'a pas la vigueur de nos jeunesses qui partent pour Bethel, là, tout animé pour aller en mission quand on a mon âge. Puis, il y a beaucoup d'entre nous qui ont un certain âge. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas aucun ministère. Puis ça ne veut pas non plus dire qu'on ne peut pas vivre pour Christ. Que Paul était en train d'évangéliser des foules ou qu'il était en train d'évangéliser un seul soldat, son ministère était aussi important. Puis, lorsqu'on passe à travers des épreuves, le point que je veux faire ici, pour Paul, c'était des chaînes. Lorsqu'on traverse des épreuves, on ne sait jamais qui nous regarde. C'est sûr que nos enfants nous regardent. Pour certains d'entre nous, nos petits-enfants nous regardent. Notre conjoint nous regarde. L'Église regarde. Nos voisins regardent. Parfois, notre plus puissant témoignage, ce n'est pas regarder comment Dieu m'a délivré de l'épreuve, mais plutôt regarder comment Dieu me garde fidèle au milieu de l'épreuve. Donc, l'Épître aux Philippiens ouvre dans ce premier chapitre, puis on va finir le chapitre 1 la prochaine fois, Dieu voulant, que dans les circonstances que nous allons faire face dans la vie, il va y avoir des moments qui vont être « bonnes », entre guillemets. Puis il va y en avoir d'autres, peut-être, qui vont être plus mauvaises, plus difficiles. Mais qu'on est tous appelés, comme Paul, de dire « Pour moi, la vie, c'est Christ. Et pour moi, la vie, la mort, c'est un gain. » Je sais que j'ai du chemin à faire dans ce domaine-là. Je n'ai pas toujours cette attitude-là. Mais en lisant l'Épître, en regardant la vie de Paul, sachant qui Paul était avant son ministère, qui il était avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, il y a encore espérance que Dieu peut faire quelque chose avec moi pour sa gloire et pour son œuvre. Pour le bien de nos familles, pour le bien de notre Église, pour le bien de notre communauté, on a été placés dans un temps et lieu pour honorer le Seigneur en lui donnant notre vie, à nous consacrer à son œuvre et de laisser Dieu faire une œuvre en nous parce qu'il le continue en nous. C'est lui qui le fait, on lui laisse faire. J'ai déjà entendu, il y a dernièrement, quelqu'un m'a expliqué que Dieu, c'est un gentleman. Je pense que c'était d'ici, hein? Un de mes frères qui était en visite, là. Il ne s'impose pas sur personne. Donc, si j'ai dit non, si je réponds au Seigneur, non, je ne suis pas intéressé. Ce n'est pas quelque chose, Seigneur, je veux m'impliquer. Ou ce n'est pas quelque chose que je veux vivre. Il ne se forcera pas sur nous. Mais aussitôt qu'on lui dit « Seigneur, change mon cœur, montre-moi qu'est-ce que tu veux, ouvre les portes, Seigneur, afin que je puisse marcher dans ta volonté pour ta gloire et pour le bien, mon bien, et pour le bien des autres qui m'entourent. » Prions. Seigneur, on doit confesser en premier, Seigneur, que on vit dans une société, dans un contexte de matérialisme où généralement les choses vont assez bien. Puis, Seigneur, on est tellement choyé de vivre dans un pays où ce que présentement on connaît la paix. Puis on a des libertés comme Église, Seigneur. Des fois, Seigneur, on dirait que c'est qu'est-ce qu'on voudrait pour toujours et en tout temps. Mais on sait, Seigneur, qu'il y a des gens de notre assemblée qui vivent présentement des difficultés, Seigneur, qui sont très difficiles. Et Seigneur, tu es fidèle. Et puis, Seigneur, à cause de ta fidélité, eux, ils demeurent fidèles, même si le faire, c'est pas facile. Alors, Seigneur, par ton esprit, change nos cœurs. Seigneur, aide-nous d'échanger notre volonté pour ta volonté. Aide-nous, Seigneur, de ne pas placer Paul en trop grande estime et de voir, Seigneur, que nous sommes tous, comme Paul, appelés à un ministère, Seigneur, que tu nous confies. Certainement, peut-être pas le même ministère, Seigneur, mais nos ministères vont être différents les uns des autres. Mais Seigneur, qu'on aurait toujours une parole encourageante pour un frère ou une sœur, qu'on puisse venir en aide les uns aux autres, qu'on puisse vraiment nous aimer les uns les autres, Seigneur. Jusqu'au point, Seigneur, que ceux qui nous entourent vont vraiment comprendre que nous sommes tes enfants, que nous avons quelque chose, Seigneur, qu'ils n'ont pas, peut-être pas, cette sécurité, cette paix, cette joie en toutes circonstances, Seigneur. Merci de nous accompagner, Seigneur, dans la semaine qui est devant nous, que ta parole reste tout près toujours, Seigneur, et Seigneur, que nos lèvres soient toujours prêtes aussi à te parler en tout temps, à tous les jours, en tout moment, Seigneur. C'est la prière de ton Église. Donne-nous cette semaine, Seigneur, des pensées pour d'autres. Donne-nous des occasions de parler à d'autres en bien de toi. Donne-nous, Seigneur, de ne pas reculer devant, Seigneur, les occasions que tu nous donnes. Donne-nous, Seigneur, d'être un peu plus brave cette semaine que peut-être la semaine dernière. Bénis-nous. On te demande dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen.